Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Mali, au moins 12 civils ont été tués samedi dans la localité septentrionale de Boulé-Kessi, près de la frontière du Burkina Faso, après l'attaque sur un marché d'un militaire malien dans des circonstances qui restent encore floues. Le gouvernement malien a envoyé une délégation sur place ce lundi, précision de notre correspondant Kassim Traoré.
Toute la nuit du dimanche 20 au lundi 21, ce sont des véhicules lourdement armés des militaires maliens qui ont passé par Bandiagara. Ils se dirigent vers Kourou. D'après nos informations, 4 membres du gouvernement malien sont attendus à Kourou, histoire de parler de cette affaire qui a occasionné la mort d'au moins 12 civils. Alors que c'est dans cette même zone de Boulkessi au nord, près de la frontière Mali-Burkina, que la tension intercommunautaire reste vive. D'autres personnes disent aussi que ce sont des militaires du G5 Sahel qui ont occasionné la mort des 12 civils. Les responsables au niveau communautaire confirment la mort d'au moins 12 civils, même s'ils parlaient d'une vingtaine de victimes. Des vérifications et des enquêtes sont en cours sur les lieux, nous indique une autre source. En tout cas, plusieurs jeunes de Bandiagara ne sont pas d'accord. C'est pour cela qu'ils saluent la mission gouvernementale qui se rend à Kourou afin d'éclairer la situation. Une situation très confuse avec la création d'un nouveau mouvement d'autodéfense PEL dénommé l'Alliance pour le salut du Sahel. Son drapeau est les couleurs rouge et noir. Bandiagara, Kassim Traoré, VOA Afrique.
A noter que selon le journal malien L'Indépendant ce lundi, des hommes armés non identifiés auraient attaqué un checkpoint des femmes, les forces armées maliennes, le samedi 19 mai à Boulkessi. Bilan toujours selon L'Indépendant, 12 assaillants tués et un mort du côté des femmes. Au Sénégal, la situation reste tendue dans les universités malgré l'intervention du président de la République qui a limogé samedi de haut responsable de l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans le Nord. Un étudiant y a été tué par balle mardi dernier. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueye.
Les étudiants saint-louisiens ont finalement eu gain de cause. Le recteur de l'université Gaston Berger a été limogé par le président de la République. En plus de cette décision, le chef de l'État a mis fin aux fonctions du directeur du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis. Le départ de ces deux responsables était au cœur des revendications des étudiants qui les accusent d'être à l'origine de la mort de leur camarade Fallou Sène. Le recteur avait réquisitionné les forces de l'ordre pour sécuriser les restaurants universitaires et ainsi mettre fin aux journées de restauration gratuite décrétées par les étudiants. S'en est suivi une confrontation contre les gendarmes qui a abouti à la mort par balle de l'étudiant Fallou Sène. Depuis ce drame, les universités publiques du pays sont en grève et les étudiants font face régulièrement aux forces de l'ordre. Les autorités espèrent que cette décision du président Macky Sall permettra d'apaiser la situation. Le ministre porte-parole du gouvernement a déclaré que ce sont des mesures conservatoires devant permettre aux étudiants de retourner dans les amphithéâtres. De leur côté, ces derniers exigent le départ du ministre de l'Enseignement supérieur pour reprendre les cours. Les étudiants ont d'ailleurs prévu une marche nationale ce jeudi à Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
En RDC, 10 civils ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi par de présumés rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans le territoire de Beni, dans l'est du pays. Les ADF ont attaqué la cité de Mbao. 10 civils ont été tués par balle et 2 autres blessés, a déclaré à l'AFP Jonas Kibwana, administrateur du territoire du Béni, où est situé Mbao, dans la province du Nord Kivu. Le capitaine Makaro Zoukai, porte-parole de l'armée dans la région, a confirmé la mort de 10 civils et l'incendie d'une camionnette suite à une incursion des ADF dans la localité de Makboko. La société civile congolaise accuse l'armée d'avoir réagi en retard. Nous dénonçons l'inefficacité de l'armée et des services de sécurité de notre pays, a dit à l'AFP Teddy Catalico, un responsable de la société civile de Beni. Ebola en RDC maintenant, début ce lundi de la campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique, alors qu'une quarantaine de cas ont été recensés dans la province de l'Équateur, dont 26 décès. Plus de détails avec Nicolas Pinault.
Oui, cette première campagne de vaccination va cibler environ 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie dans l'Équateur, près de Mbandaka, en particulier à Bikoro, où la fièvre hémorragique s'est propagée depuis 10 jours. C'est le même vaccin du laboratoire Merck qui avait été utilisé lors de l'épidémie de fièvre hémorragique qui avait coûté la vie à 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Selon le gouvernement congolais, sont concernés en priorité le personnel de santé et ceux ayant eu des contacts avec les malades. Kinshasa affirme avoir déjà reçu 5400 doses du vaccin contre Ebola dans le cadre d'un plan de riposte contre, je cite, cette épidémie de portée nationale. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé considère que l'épidémie ne constitue pas une urgence de portée mondiale. Dans son dernier bilan épidémiologique, le gouvernement congolais faisait état d'une quarantaine de cas, dont 26 décès, un chiffre susceptible d'augmenter rapidement, d'autant que le virus Ebola a été signalé à Mbandaka, ville de plus d'un million d'habitants.
Et pour terminer ce chapitre RDC, grève des transports en commun à Kinshasa, la capitale, bus et taxis étaient très rares ce lundi matin dans la grande métropole de 12 millions d'habitants en raison de l'arrêt de travail par les chauffeurs.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, c'est toujours l'attente, 9 mois après les promesses de 20 milliards de dollars faites à la table ronde de Paris par la communauté internationale. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, un programme intégré au PND, le programme national de développement, appelle les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses. De N'Djamena, le point avec André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique.
Le Tchad est le cinquième pays le plus vaste de l'Afrique. Le financement par les bailleurs de son programme national de développement peut booster l'économie dans les pays du G5 Sahel en proie à la violence de tout genre. Pour Mathieu Bécan, expert au plaidoyer à la mobilisation des ressources du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive, le Tchad est le seul pays dans le Sahel qui a mené des interventions directes dans la lutte contre le terrorisme et mérite d'être soutenu.
Le Tchad a eu un engagement et un volontarisme pour bannir l'insécurité sur son propre sol. C'est le seul îlot aujourd'hui dans la zone qui soit plus ou moins préservé. L'Alliance Sahel, qui est née plus ou moins du constat d'échec des interventions traditionnelles, comprend aujourd'hui qu'il faille véritablement faire du développement. Les Tchadiens l'ont fait et c'est un exemple aujourd'hui qui peut contaminer en fait l'ensemble de la sous-région. Et si les bailleurs peuvent véritablement se mettre ensemble pour faire quelque chose de cohérent, ça ne peut être que bénéfique pour cette grande bande très stratégique.
Jean-Marc Gravelny, responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel, une institution créée par plusieurs pays et institutions partenaires du Tchad, souligne pour sa part qu'il faut plutôt œuvrer pour la facilitation des promotions des initiatives privées à travers des microfinances pour améliorer les conditions de vie des populations frontalières du G5 Sahel, la réalisation des infrastructures de base s'impose, a-t-il dit.
Le bassin du lac Tchad, où il y a des gros enjeux en termes de sécurité, des actions doivent être conduites dans cette région-là, mais aussi dans les régions frontalières où le Tchad est confronté à la présence de réfugiés en grand nombre. L'Alliance peut mettre un accent particulier sur ces zones de grande fragilité, ces zones où le lien entre la sécurité et le développement est très important.
Tout en rappelant aux partenaires techniques et financiers d'honorer leur engagement, le ministre tchadien de l'économie, Issa Doubran, rassure déjà les donateurs de la bonne gestion de ces ressources.
Nous voudrions que l'aide qui va être donnée à ces pays serviront tout à fait à alimenter tous les réseaux de ceux qui en ont déjà, les élites qui ont des moyens de capter ces ressources-là. Il faut libérer les ressources sur le terrain. Que même celui qui n'a pas espoir, qui ne représente rien, devrait avoir la chance de sentir que le Tchad est son pays. Et c'est possible.
Selon les experts, ce qui a été dit à la table ronde de Paris a été peut-être mal articulé en termes de projets à financer. Mais aujourd'hui, le Padelfit définit véritablement une vraie vision de développement avec l'ensemble des partenaires. Il rassure que les futurs bénéficiaires font partie intégrante dans son élaboration qui donne le pouvoir financier aux populations rurales et non un projet sectoriel comme ça a été toujours le cas. Et donc il faut aller vite. André Kodmajingar Ndjamena, VOA Afrique.
Et pour terminer, actualité hors d'Afrique, le président sortant du Venezuela, Nicolas Maduro, a été déclaré dimanche vainqueur du scrutin présidentiel par l'autorité électorale avec près de 70% des voix. Précision de Jean-Roger Bion.
Le président socialiste a remporté 67,7% des voix contre 21,2% à son principal adversaire Henri Falcon, a annoncé la présidente du Conseil national électoral CNE, Tibisse Luchena. Henri Falcon, l'adversaire du président, a dénoncé le manque de légitimité de cette élection et exigé la tenue d'un nouveau scrutin avant la fin de l'année. Nicolas Maduro s'est lui réjoui devant ses partisans d'un record historique. De Bogota à Lima, en passant par Santiago ou Madrid, des centaines de Vénézuéliens à travers le monde ont manifesté dimanche pour dénoncer une fraude. Outre l'opposition, les États-Unis, l'Union européenne et le groupe de Lima, une alliance de 14 pays d'Amérique et des Caraïbes, rejettent ce scrutin. Tous accusent Maduro de saper la démocratie. 4 mois de manifestations quasi quotidiennes de l'opposition qui ont fait 125 morts à la mi-2017 ont été écartés d'un revers de la main avec la mise en place d'une assemblée constituante, toute puissante arme politique au service du camp au pouvoir.
Merci de votre attention.